Suivez Appel sur l'actualité avec Orange Monnaie, leader du transfert d'argent et du paiement de factures via mobile.
Appel sur l'actualité.
33 9 693 693 70.
Juan Gomez.
Bienvenue, merci d'être avec nous. L'antenne vous appartient dans 30 minutes. Vous réagirez à l'actualité de votre choix. C'est la Libre Antenne. Comme tous les vendredis, vous nous interpellez sur les événements qui vous ont marqué cette semaine dans l'actualité française, internationale, africaine. Vous savez que tous les sujets nous intéressent. Donc rejoignez-nous, lancez le débat en direct sur RFI. C'est l'occasion, vous le savez, de nous interpeller sur des sujets qui ne font pas forcément la une de la presse internationale. Des sujets dont on n'a pas forcément parlé cette semaine dans l'émission. Vous qui nous écoutez à l'étranger, appelez-nous. Parlez-nous de l'actualité dans votre pays. Vous êtes les bienvenus. 33 9 693 693 70. Et vous nous envoyez également vos commentaires et vos coordonnées sur les réseaux sociaux, notamment sur la page Facebook de l'émission RFI Appel sur l'actualité. Mais d'abord, comme tous les jours, à cette heure-ci, nous commençons avec vos questions sur l'actualité. Vos questions pour mieux comprendre, mieux décrypter les sujets que nous traitons dans nos différents journaux. Et vous avez été plusieurs cette semaine à nous envoyer des questions concernant la Corée du Nord après les menaces de Donald Trump. Bonjour André.
Bonjour Juan.
Vous êtes à Abidjan, en Côte d'Ivoire. On vous écoute.
Ok. D'un avis de guerre américain se dirige en péninsule nord-coréenne deux jours après des frappes américaines sur une base militaire en Syrie. Et c'est pour cela que j'ai des questions à vous poser.
Oui.
Pourquoi l'envoi de ces navires de guerre dans la péninsule nord-coréenne? Et l'envoi de ces navires risque-t-il de décrisper les relations entre la Chine et l'Amérique?
Oui, d'autant que la Chine, rappelons-le, est le plus proche allié de la Corée du Nord. En tout cas, ce qui est sûr, c'est que ce déploiement militaire américain a immédiatement provoqué la colère de Pyongyang. Bonjour Antoine Bondaz.
Bonjour.
Merci d'être avec nous. Vous êtes chercheur à la Fondation pour la Recherche Stratégique, enseignant à Sciences Po, et vous avez récemment publié avec le photographe Benjamin Decoing, Corée du Nord, plongée au cœur d'un État totalitaire. C'est aux éditions Chêne. Expliquez-nous pourquoi Donald Trump a décidé d'envoyer un porte-avions près des côtes nord-coréennes.
Alors, je pense qu'il y a trois objectifs principaux de l'envoi de ce porte-avions, le USS Carl Vinson. Le premier est d'essayer de dissuader la Corée du Nord de réaliser un nouvel essai nucléaire ou balistique. Le deuxième objectif est de rassurer la Corée du Sud de la solidité de l'alliance américano-sud-coréenne. Et le troisième objectif est un objectif plus de politique intérieure, propre aux États-Unis. Il est de présenter le président Donald Trump comme différent du président Barack Obama et de montrer que Donald Trump s'inscrit dans une rupture et entend avoir une politique étrangère différente de celle de son prédécesseur.
Ouais. La vraie rupture, ce serait une intervention militaire, ce serait des frappes militaires aériennes comme ce fut le cas la semaine dernière en Syrie. Est-ce que ce scénario vous semble plausible ?
Il est extrêmement peu probable. Premièrement, le scénario serait très différent de celui de la Syrie. Aux États-Unis, en Syrie, les Américains ont répondu à une attaque chimique du régime de Bachar el-Assad. Là, on serait dans le cadre d'une guerre préventive, c'est-à-dire face à une menace hypothétique pour les États-Unis. Deuxièmement, sur le plan tactique, il est très difficile pour les Américains de garantir que des frappes militaires sur la Corée du Nord seraient capables de neutraliser les capacités nucléaires et balistiques nord-coréennes. Et enfin, il faut quand même se rappeler que la Corée du Nord, depuis 70 ans, développe des capacités militaires afin de dissuader tout pays de l'attaquer, qu'elle a des capacités militaires réelles. Il faut aussi souligner que Séoul, avec sa banlieue, à peu près entre 20 et 25 millions d'habitants, se trouve à moins de 50 km de la frontière et qu'en cas de conflit dans la péninsule, les dommages serait considérable. Pour vous donner un exemple,
donc, en 1994... Si je comprends bien Antoine Bondaz, contrairement à la Syrie, Donald Trump, lui, ne sous-estime pas les représailles de Pyongyang. On sait que Séoul est à portée de tir, vous le disiez, des missiles nord-coréens à
exactement,
50 km. Donc,
ne sous-estime pas les capacités de la Corée du Nord. La dernière fois que les Américains se sont posé la question officiellement de frappe sur la Corée du Nord, c'était en 1994, il y a un peu plus de 20 ans. La conclusion du Pentagone était alors qu'une frappe américaine conduirait forcément à une guerre dans la péninsule et qu'il y aurait au minimum 1 million de morts.
Oui.
La Corée du Nord a aujourd'hui des capacités qui se sont développées par rapport à 1994 et donc les dégâts causée sur la Corée du Sud, mais aussi sur les troupes américaines stationnées en Corée du Sud, serait considérable.
Et comment les Chinois ont-ils réagi à l'arrivée près des côtes nord-coréennes de ce fameux porte-avions ?
La Chine s'oppose de manière générale à tout événement ou à toute démonstration de force militaire, que ce soit de la Corée du Nord ou des États-Unis. Du point de vue chinois, il y a un malaise palpable vis-à-vis des porte-avions américains qui, dans l'histoire des relations sino-américaines, ont eu un rôle très important, que ce soit dans les années 50, dans l'opposition entre la Chine maoïste et Taïwan, ou que ce soit plus récemment dans les années 90 ou au milieu des années 2010. Ce qui est important pour la Chine, c'est de garantir la stabilité dans la péninsule et d'éviter toute escalade des tensions qui pourraient conduire à un conflit étant pour la Chine quelque chose qui ne serait pas du tout dans son intérêt national.
Oui, on rappelle que effectivement, si la Corée du Nord s'effondre, en tout cas son régime s'effondre, cela entraînerait une réunification des deux Corées, et on sait que la Corée du Sud, Séoul en l'occurrence, est alignée sur Washington, ce qui n'est pas du goût évidemment des Chinois. Ce matin, le ministre chinois des Affaires étrangères affirme, je le cite, « un conflit pourrait éclater à tout moment en Corée du Nord ».
C'est exact, je veux dire, un conflit ne peut jamais être exclu. L'objectif aujourd'hui des chancelleries en Asie est d'éviter justement ce scénario. Le président Xi Jinping est monté au créneau il y a 2 jours pour appeler son homologue américain afin d'essayer de convaincre Donald Trump de ne pas réaliser de frappe sur la Corée du Nord. Mais c'est également le cas de la Corée du Sud et du Japon, où des voix s'élèvent afin de dire que tout conflit ne serait pas non plus dans leur intérêt.
Oui, côté chinois, on essaie de trouver des solutions, on essaie de calmer le jeu. Donald Trump, lui, en tout cas, n'hésite pas à écrire sur son compte Twitter personnel. Si la Chine décidait d'aider, ce serait formidable. Sinon, nous résoudrons le problème sans elle. Fin de citation. Restez avec nous, Antoine Bondaz. Autre question qui nous vient de Dakar, au Sénégal. Bonjour, Arfang.
Bonjour, Juan Gomez.
Bienvenue.
Je voulais, en fait, présenter mes condoléances au défunt Laurent Sadou. Merci beaucoup.
Merci à vous de penser à notre ami Laurent Sadou qui nous a quitté il y a maintenant 2 semaines. On vous écoute, Arfang.
Est-ce qu'il y a-t-il des pays qui sont prêts à intervenir aux côtés des Américains ?
Alors, est-ce que d'autres nations pourraient rejoindre ce porte-avions américain près des côtes nord-coréennes, Antoine Bondaz ?
Alors, pour l'instant, ce n'est pas du tout à l'ordre du jour. Il y a déjà plusieurs points. Ce porte-avions, en réalité, revient sur zone. C'est-à-dire qu'il était dans les eaux sud-coréennes il y a 4 semaines. Il était ensuite parti vers Singapour. Il ne fait donc que revenir. Ce n'est donc pas la première fois qu'un porte-avions américain, et notamment le USS Carl Vinson, se trouve dans ces eaux sud-coréennes. Deuxièmement, en cas de conflit entre les États-Unis et la Corée du Nord, la Corée du Sud et très certainement le Japon participerait également au conflit. Encore une fois, on est très très loin d'un scénario de frappe pour l'instant, et il n'y a aucune coordination ni même coopération internationale dans l'éventualité de ces frappes.
Ouais. Arfang, vous avez une autre question.
Oui, bien sûr. L'ONU a-t-elle pu réagir face à ce déploiement des Américains dans la péninsule nord-coréenne ?
Alors, à ma connaissance, Antoine Bondaz, il n'y a eu aucune réaction des Nations Unies.
L'ONU n'a normalement pas à réagir à un déploiement militaire. La question qui se pose, tout simplement, c'est que les États-Unis faisant partie du Conseil de sécurité des Nations Unies, il ne va pas y avoir demain une déclaration présidentielle ou une résolution interdisant ce déploiement. En soi, ce déploiement ne pose pas de problème. Le problème peut venir des misperceptions que peut avoir la Corée du Nord vis-à-vis de ce déploiement. Ce qu'il faut vraiment insister, c'est que la Corée du Nord a une certaine paranoïa vis-à-vis des États-Unis. Il y a un véritable complexe d'insécurité et ce déploiement ne fait que le renforcer. Donc ce n'est pas forcément une chose bénéfique pour la stabilité régionale. Et deuxièmement, le point que tout le monde attend désormais est un possible essai balistique ou nucléaire nord-coréen, puisque samedi aura lieu le 105e anniversaire de la naissance du fondateur du régime, Kim Il-sung.
Avec une parade militaire prévue à Pyongyang, et c'est vrai que certains observateurs pensent que la Corée du Nord pourrait profiter de cet anniversaire pour procéder à des tirs de missiles, voire même, qui sait, à un 6e essai nucléaire. Merci beaucoup Antoine Bondaz d'avoir été avec nous, spécialiste des deux Corées. 33 9 693 693 70. Appelez-nous, posez-vous toutes vos questions concernant l'actualité. On se fait un plaisir évidemment tous les matins de vous répondre. Amir était avec nous hier en ligne. Il est à Libreville au Gabon. Rappelez-vous, on a eu des problèmes de téléphone, donc on le rappelle ce matin. Bonjour Amir.
Bonjour Anne, bonjour à tous.
Vous êtes donc au Gabon, vous avez des questions sur l'élection présidentielle française. Nous sommes à 9 jours du premier tour et vous avez des questions concernant ce qu'on appelle les petits candidats.
Oui, oui, parce que vous m'avez constaté, vous, à chaque élection, les petits partis obtiennent chaque fois des scores plus élevés. Mais j'aimerais connaître leur importance et le rôle de ceux-là dans le processus électoral. Mmh. Et parmi les petits partis, lequel est considéré comme ayant le poids le plus important?
Alors, c'est vrai qu'à part Nicolas Dupont-Aignan, qui est crédité de plus de 4% des voix, les autres petits candidats recueillent entre 0,5 et un peu plus d'1% des intentions de vote. Bonjour Bruno Cotresse.
Bonjour.
On vous entend bien ce matin, merci d'être à nouveau avec nous. Vous êtes spécialiste des comportements électoraux, chercheur au CNRS et membre du CEVIPOF. À quoi servent finalement ces petits candidats quand on voit les intentions de vote dans les différents sondages?
Eh bien, les petits candidats, ils participent au fond à ce processus démocratique qu'est l'élection présidentielle. Si l'élection présidentielle n'était accessible qu'aux candidats qui disposent d'une forte infrastructure, d'un parti politique, qui a des moyens financiers, qui a des moyens humains, bien sûr, on se poserait tout de suite la question de l'accès à cette compétition électorale pour ceux qui disposent de beaucoup moins de moyens. Donc, il se trouve qu'en France, il y a un filtre, c'est d'avoir 500 parrainages. Une fois qu'on a passé ce filtre, on peut accéder à l'élection présidentielle. Donc, on a des petits candidats. Ils ne sont pas tous arrangés dans le même panier. Il y a des petits candidats qui sont des porteurs d'une idéologie. Je pense aux petits candidats de l'extrême gauche, comme Philippe Poutou, comme Nathalie Arthaud. Et puis, il y a des petits candidats qui eux sont beaucoup plus porteurs d'une thématique ou d'une posture. Je pense à Monsieur Asselineau, ou je pense à Monsieur Lassalle. On peut penser à M. Cheminade, donc qui participe à cette grande discussion politique que nous avons en France en ce moment.
Ouais. Alors qu'il, par exemple, Nathalie Arthaud, on est, je crois, à sa deuxième ou troisième élection présidentielle. En 2012, elle a obtenu 0,56% des voix. Quel intérêt pour elle, par exemple, de revenir dans le jeu politique?
Alors, pour ces petits candidats qui n'ont accès pratiquement jamais à l'espace médiatique, pour eux, l'élection présidentielle, c'est l'opportunité unique, exceptionnelle, de pouvoir se visibiliser. Mmh. L'élection présidentielle, puisque c'est une élection de personnalité, de candidats, elle va permettre à des petites formations qui arrivent à trouver dans leur rang quelqu'un qui passe un peu la rampe des médias, quelqu'un qui sait communiquer. On a vu l'autre jour dans le débat Philippe Poutou très performant, par exemple. Oui. Ça permet à ces petites formations politiques qui ont une personnalité, on va dire, qui s'est poussé un coup de gueule de temps en temps, d'exister tous les 5 ans.
Effectivement, ces personnalités ont besoin de créer le buzz, de faire du buzz pour être médiatiquement existantes. On a vu, vous parliez de Philippe Poutou, on a vu Nicolas Dupont-Aignan, par exemple, quitter le plateau du journal télévisé de TF1 pour protester de sa non-invitation lors du premier débat télévisé. Merci d'avoir été avec nous, Bruno Cotresse. Bonne journée à vous et merci à Amir qui nous écoute de Libreville. À l'instant même, il s'installe dans ce studio. C'est le jefe, le chef du service des sports d'RFI. Bonjour Alejandro Valente.
Bonjour Juan, bonjour à tous.
Merci de nous rejoindre. Vous avez fait un sprint pour arriver jusqu'au studio.
Je ne suis pas très loin.
Vous n'êtes pas très loin, d'accord. Je ne savais pas si vous étiez venu en courant ou pas. Non. Des questions, Alejandro, sur la déroute du Barça face à la Juventus en quart de finale aller de la Ligue des Champions. Bonjour Patrick.
Bonjour Juan Gomez.
Vous êtes à Port-Gentil, au Gabon. On vous écoute.
Exactement. Oui, Juan Gomez, le FC Barcelone a été tenu en échec mardi dernier face à la Juventus de Turin par un score lourd de 3-0. Alors, Juan, je voulais savoir, le FC Barcelone est-il capable de réaliser le même scénario lors du match retour de la Ligue des Champions contre le PSG?
Oui, on se souvient, Alejandro Valente, qu'en huitième de finale contre le PSG en match retour, le Barça avait réussi l'inimaginable. Un second miracle est-il possible?
Possible, oui. Probable, peut-être pas. À force de jouer avec le feu, on finit par se brûler. Et c'est vrai que ce match fait peut-être davantage mal à Barcelone que le premier. Le premier pouvait passer pour un accident, une surprise, quelque chose qui peut arriver à une grande équipe. Là, c'est plus compliqué, même si Barcelone a peut-être aussi joué des malchances. Ils ont eu beaucoup d'occasions face à la Juventus, ils n'ont pas eu de réussite face au but, donc ils ont mieux joué que face au PSG, mais le résultat
ils ont mieux joué, le Barça a manqué d'agressivité quand même, mardi soir.
Le Barça a manqué d'agressivité, surtout défensivement, de toute évidence, ça allait pas du tout. D'ailleurs, Luis Enrique s'en est pris vertement à plusieurs joueurs de l'équipe, dont Piqué, Mascherano, même Neymar, qui n'ont pas été à la hauteur de ce match. Donc on peut penser que cette défaite qui s'ajoute à celle concédée quelques jours plus tôt face à Malaga en championnat.
Malaga 14e voilà, de la Ligue espagnole. Oui.
Hein. Donc en quelques jours, Barcelone a quand même hypothéqué ses chances aussi bien en championnat qu'en Ligue des champions. On sent que l'équipe est touchée davantage qu'après les matchs contre Paris. D'ailleurs, contre Paris, il y avait eu 3 semaines pour préparer le match au retour. Là, ça va arriver très vite.
Huit jours seulement.
Il y a un match ce week-end face à la Real Sociedad, qui est aussi un adversaire compliqué. Dans une semaine, il y a les Clasico. Donc, les échéances s'accumulent.
Ça veut dire quoi que le Barça va devoir faire un choix la semaine prochaine? Soit essayer de remporter le match face à la Juve, soit remporter le Clasico face au Real Madrid?
Je pense qu'ils n'ont pas vraiment le choix. Il faut qu'ils essayent les deux. Après, est-ce qu'aujourd'hui, mentalement, l'équipe est en mesure de refaire un exploit pareil, d'autant que la Juventus est quand même une équipe très expérimentée, avec une défense très solide. Donc ça va être une histoire peut-être différente que celle face au PSG.
Oui, défense très solide, il me semble. 2 buts, simplement,
encaissés. C'est la meilleure défense de la Ligue des Champions.
De la Ligue des Champions cette année. Patrick, vous avez une autre question?
Oui, Juan. Depuis les phases de finale de la Ligue des Champions, le Barça n'a pas gagné un match à l'extérieur. Comment peut-on expliquer cette contre-performance de cette équipe barcelonaise?
Alejandro Valente.
Alors, c'est vrai que Barcelone a quelques difficultés en déplacement. Je pense qu'il y a un cumul des facteurs. Il y a une équipe qui a un peu vieilli. On le voit à certains de ses joueurs importants, comme Iniesta, par exemple, qui n'est plus le même qu'on a connu. On peut penser que le recrutement a été médiocre l'été dernier et que les doublures aujourd'hui ne sont pas à la hauteur des titulaires. Donc dès que Luis Enrique remplace certains titulaires par des remplaçants, on l'a vu par exemple avec Busquets qui ne pouvait pas jouer contre la Juventus, la performance s'en ressent fortement. Et voilà, je pense qu'il y a cette accumulation de facteurs.
Autre question, Kayene nous appelle de Djamena au Tchad. Bonjour Kayene.
Bonjour, monsieur Juan.
On vous écoute.
Oui, je voudrais savoir, après la faute contestée sur Suarez lors du match qui a opposé le FC Barcelone au PSG, des dispositions ont-elles été prises par l'UEFA par rapport aux erreurs d'attrage en faveur du Barça afin de ne plus générer de nouvelles polémiques?
Alors, le réseau est très mauvais, mais on a compris un peu l'essentiel. C'est vrai qu'il y avait eu des erreurs d'arbitrage au match retour PSG-Barça en faveur du Barça. On se souvient que le patron du PSG avait même rédigé une lettre à l'UEFA en disant, bon, écoutez, il y a eu quand même quelques anomalies. Que prévoit l'UEFA pour être sûr qu'il n'y aura pas d'erreurs d'arbitrage au match retour la semaine prochaine?
Des erreurs d'arbitrage, à mon avis, malheureusement, il y en a dans tous les matchs et dans toutes les directions. Là, il y avait eu effectivement une campagne de presse assez virulente sur le match retour. Nous, on a consulté nos consultants, par exemple, des anciens arbitres comme Bruno Derrien, qui disent que sur les images contestées du match Barça-PSG, la moitié des arbitres, au vu des images vidéo, pensaient qu'il n'y avait pas pénalty sur Suarez, et l'autre moitié pensait qu'il y avait pénalty. Il y a eu contact, donc c'est toujours très difficile de trancher ce genre de questions. En tout cas, je pense qu'à l'UEFA, on n'a pas donné plus d'importance que ça.
Voilà, en tout cas, l'UEFA a décidé de ne pas suspendre cet arbitre allemand, il me semble, du Barça-PSG. Merci Alejandro Valente.
Je vous en prie.
À bientôt, je l'espère. Merci à tous de votre fidélité. Dans un instant, le point complet sur l'actualité. On sera de retour dans 10 minutes, juste après, pour la Libre Antenne. Vos commentaires, vos analyses sur l'actualité de la semaine. Rejoignez-nous, 33 9 693 693 70. On parlera notamment de la campagne électorale française, de la nomination contestée du nouveau Premier ministre en République démocratique du Congo, et beaucoup d'appels ce matin concernant la crise qui secoue en ce moment l'université au Niger.
Retrouvez Appel sur l'actualité après le journal avec Orange Money, leader du transfert d'argent.